La gérontocratie. Avec, attends, Michel Barnier, François Bayrou et tout. Enfin, puis ailleurs aussi. Enfin, c'est des vieux, des hommes, des vieux, des âgés.
Bonjour à toutes et à tous, ça a beau être la 475e fois que je vous le dis, ça fait toujours autant plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, d'autant que j'ai aujourd'hui une grosse patate, vous le découvrirez durant cette émission. Zoom Zoom Zen, l'émission qui tente de mieux cerner notre époque à travers ses mots, ses concepts, et aujourd'hui, alors que les premiers enfants de la génération bêta, ceux qui sont nés après le 1er janvier 2025, viennent de voir le jour, c'est à eux que j'aimerais m'adresser. En effet, j'ai lu le livre de notre invité, l'essayiste Hakim El-Karaoui, La lutte des âges, comment les retraités ont pris le pouvoir. Et je suis donc en mesure de vous alerter sur ce qui va se passer si on ne fait rien et qu'on continue de laisser les vieux orienter l'agenda politique de ce pays. Non seulement on va avoir Marine Le Pen à l'Élysée en 2027, comme l'a annoncé d'ailleurs le nouveau livre coécrit par Hakim El-Karaoui qui n'arrête pas d'écrire, mais surtout, vous allez trimer toute votre carrière pour financer la fin de vie pépère de boomers qui, eux, n'auront pas levé le petit doigt pour vous. Prenons au hasard Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef.
Au hasard.
Nous sommes le 20 janvier 2055 à l'EHPAD d'Annie Boone de Potocombo. Et Cyril, qui refuse toujours d'indiquer au personnel soignant où il a caché son pilulier à Viagra, vit sa meilleure vie. Avec trois autres pensionnaires, ex-membres comme lui du blog Suckin' Rock'n'Roll, ils donnent leur troisième spectacle de la semaine. En effet, grâce ou à cause d'Alzheimer, ils sont tous quatre persuadés d'être Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr., les membres du groupe U2. Et ils pensent que l'EHPAD d'Annie Boone de Potocombo est en fait la salle de concert La Sphère de Las Vegas. Les autres pensionnaires, ne sachant pas ce qu'est La Sphère de Las Vegas, mais ne sachant pas non plus où ils sont, l'illusion est presque parfaite. D'autant que Cyril, oubliant lui-même en cours de route qu'il est Bono, décide de conclure ce concert hommage à U2 par le tube Jingle Bells. Dont personne ne se souviendra en 2055 que ce n'est pas un titre de U2. Tout ce fun de vieilles personnes sera financé par qui ? Bien par vous, la génération bêta, qui trimera donc pour permettre à Cyril de vivre ses dernières années dans le confort ouaté d'un établissement prestigieux, puisque oui, l'EHPAD d'Annie Boone de Potocombo fera partie du réseau des résidences-services premium Lui Lifestyle, fondé par Quentin Lui en 2033 et qui deviendra une licorne en 2036. Bref, cette brève et terrifiante vision du futur et le livre de notre invité dénoncent au fond la même chose, notre démocratie a viré à la gérontocratie, le gouvernement pour et par les vieux. Et si on y prend garde, demain vous paierez tous pour que Cyril joue Jingle Bells à la flûte carotte. Alors réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Et bonjour Hakim El-Karaoui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes essayiste, fondateur du Cabicia, spécialisé dans le conseil en stratégie aux entreprises et au gouvernement. Prendre ce qui se cache derrière ce terme que j'utilisais de gérontocratie. Juste le temps de vous présenter mes jeunes collègues, Hakim, ceux qui vont raquer, te salue. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour tout le monde. Bonjour.
C'est beau sur Bénure. Une entrée sur Bénure. Vous en avez toujours rêvé.
Très classe.
À vos côtés, Hakim, en 2055, elle ne sera évidemment plus sur France Inter, elle possédera France Inter. Qu'elle aura racheté en 2042 une bouchée de pain, en tout cas nettement moins chère que TikTok, qu'elle avait acheté l'année précédente juste pour faire bisquer Musk. Que s'est-il passé ? Eh bien tout simplement, quand son podcast mentionné a franchi la barre des 600 millions de vues et qu'elle est devenue la première youtubeuse de France en 2033, reléguant Thibaut InShape et Cyprien au rang de Nobod, Mr Beast l'a repéré, ils se sont mariés et ils forment désormais le plus gros power couple du monde. Manon, en attendant, ça vous plaît,
en attendant
2055, vous nous parler un peu gérontocratie, vous aussi.
Oui, mais en vous présentant la plus jeune première ministre du monde actuellement en activité, et non, ce n'est plus Gabriel Attal qui a ce statut.
Face à vous, Hakim, il est clairement un angle mort de votre dystopie sur les années 2026-2029, car à aucun moment vous n'y faites référence à ce qui sera pourtant l'événement économique de 2028, le carton mondial du mug chantant Lucy Galou, qui fait le bruit des cigales quand on boit, qui sera pour Quentin Lui ce que l'iPhone fut pour Steve Jobs, le tremplin vers la gloire. Alors Quentin, je vous sens très excité à l'idée de ce que le futur vous réserve, mais le présent, ça reste le micro-trottoir.
Et disons que le monde n'est pas dupe, Mathieu, sur la gérontocratie quand on voit nos deux derniers premiers ministres, 146 ans à eux deux. Ça fait trois, Cyril. J'ai compté. Oh. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ok, on vire les vieux, mais il reste qui chez les jeunes ? Vos réactions, vos réponses et vos astuces aussi pour lutter contre la gérontocratie.
Cyril veut réagir.
Ce sera avant 16h30.
Étienne Bertin, vous pouvez couper le micro de Quentin Lui jusqu'à la fin.
il va nous manquer un peu d'émission. Bon. Émission spéciale gérontocratie oblige, les personnes âgées seront à l'honneur dans le quiz. Vers 16h30, nous jouerons avec cette formule que vous adorez. Je vous lis la bio Tinder d'une célébrité, en l'occurrence d'une vieille célébrité, et vous me dites qui je suis.
Cyril Lacarrière, oh rédacteur non,
c'est,
en chef.
C'est moche, ça n'a même pas commencé. Juste avant 17h, c'est donc Marine Leonardi, puisqu'on est lundi, qui nous rejoindra. Mais d'abord, Hakim El Karoui, la France est-elle en passe de, ou bien est-elle déjà, selon vous, une gérontocratie ?
Alors, votre envoi, votre présentation était très juste. Il y avait juste une toute petite erreur, pardon. Ce n'était pas 2055, c'était 2025.
Oh mon Dieu !
Parce que ça a déjà commencé.
On est déjà dedans.
Et ça a commencé probablement, le tournant, c'est 2019. Vous vous souvenez, en 2017, il y a un président très très jeune qui a été élu, Emmanuel Macron. Puis en 2019, il a été rattrapé par les retraités. C'était aux élections européennes, ils ont massivement voté pour lui. Et à partir de là, il a fait une politique avec un axe. Parfois, on a du mal à trouver l'axe, mais là, il y avait vraiment un axe. C'est on préserve les retraités toujours et tout le temps. L'an dernier, à la même époque, il y avait un grand débat, vous vous en souvenez, sur la désindexation des retraites ou pas. Ils avaient décidé d'indexer, ça coûtait 15 milliards d'euros. Trois mois après, ils annonçaient que le budget de l'aide au développement, de l'action climatique, de l'enseignement, allait baisser. Et là, vous avez vu le grand débat, ce qui a fait tomber Michel Barnier. C'était quoi ? C'était l'indexation ou pas des retraites sur l'inflation. Donc, les retraités sont au cœur du système politique aujourd'hui.
Et on va développer ce point avec vous durant cette heure ensemble. Enfin, 17 pensionnaires de sexe féminin à l'EHPAD Danny Boone, 17 Lacarzouze. Car ma boule de cristal le dit très clairement, le Lacarrière restera vaillant jusqu'au bout. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors vous avez enquêté, vous aussi.
Oui, ouais.
Racontez-nous la gérontocratie, d'où ça sort ?
C'est à Fassi qu'on doit ce mot vas-y et pas vas-y, vas-y. James Fassi, c'est un politique suisse du 19e siècle, oui. Fondateur du Parti radical genevois, aussi surnommé les créateurs de la Genève moderne, rien que ça, et également ancien président du Conseil des États de Suisse. En 1828, il publie un essai d'une trentaine de pages intitulé « De la gérontocratie ou abus de la sagesse des vieillards dans le gouvernement de la France ». Un Suisse qui vient de donner un avis sur nous les Français, vaste blague, nous on a récupéré un pseudo-Suisse, pseudo-Corse, pseudo-tout,
oui.
Mais passons.
Je suis un citoyen du monde, moi monsieur.
C'est ça, ouais, t'as raison. Il a 34 ans quand il écrit ce texte, et à l'époque, il pointe du doigt les travers de notre système politique, et notamment celui de la Restauration. La Restauration, petit rappel pour Manon et Quentin, c'est le nom qu'on va donner au régime qui va s'instaurer en France entre 1814 et 1830 avec le retour des rois de la dynastie des Bourbons au lendemain de la Révolution française et du Premier Empire. On avait coupé la tête de Louis XVI et voilà que les Bourbons faisaient leur retour. Effectivement, il y avait de quoi se foutre de nous.
Et il disait quoi alors mon compatriote Fassi ?
Je vous la fais courte. Ceux qui dirigent la France sont vieux, usés, dépassés, incapables d'embrasser le progrès, de comprendre le présent, de faire confiance aux jeunes et même au fond que leur influence est nocive. Ça me rappelle cette phrase de Lionel Jospin lors de la campagne de 2002. Il est dans un avion, depuis la Réunion, il discute avec des journalistes. Il dit que Jacques Chirac est fatigué, vieilli, gagné par une certaine usure du pouvoir. La phrase sort dans la presse et ça ne passe pas. Le président Chirac va s'en servir contre son adversaire et Lionel Jospin payera cette bourde. Pas de préjudice en revanche pour James Fassi. Il va aussi taper sur le pouvoir genevois contrôlé par une élite vieillissante et conservatrice qui résiste au changement démocratique. Détail amusant, quand il arrivera finalement lui-même au pouvoir, il aura déjà plus de 50 ans. Mais là, évidemment, il ne parlera plus de gérontocratie. Eh bien, nous, on va en parler durant une heure.
Merci, Cyril. Hakim El Karoui, si on suit le petit topo historique de Cyril, on se rend compte que ce n'est pas nouveau que les politiques, comme ça, le fait de choyer les vieux, ça a toujours existé, enfin, en tout cas, depuis cette époque-là.
Non, c'est pas nouveau, mais maintenant c'est très différent parce que c'est pas qu'il y ait des responsables politiques âgés. Le sujet, c'est qu'il y ait des responsables politiques jeunes ou âgés qui font la même politique, qui est favorable à une classe d'âge. Et cette classe d'âge, laissons de côté les retraités. Les retraités, ça donne le sentiment de gens qui sont faibles. Appelons-les les boomers, puisque c'est eux dont il s'agit. Les boomers, aujourd'hui, ils étaient jeunes en 68, ils ont fait la révolution, la liberté. En 81, ils étaient l'accès au pouvoir avec François Mitterrand. En 88, il y a eu le début de la dérégulation financière. En 2000, la Chine est rentrée dans l'OMC. Le monde s'est ouvert à eux, ils se sont enrichis, notamment avec un patrimoine immobilier qui a considérablement augmenté. Puis en 2008, en fait, ils auraient dû faire faillite. Et moi, j'ai écrit ce livre après 2008 en me disant, mais pourquoi ils n'ont pas fait faillite ? Pourquoi la politique, ça a été pas de transfert, pas de dette, pas d'inflation ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait un intérêt politique qu'il fallait, non pas en termes de classe, mais d'âge. Les boomers.
Mais, parmi ces boomers, tous les boomers ne se sont pas outrageusement enrichis. Il y en a qui ont des pensions modestes, il y a des petites retraites aussi, ça existe.
Évidemment, mais tout le monde croit que les retraités aujourd'hui, ou les baby-boomers, sont pauvres, que dans l'échelle des âges, l'âge de la vieillesse et l'âge de la pauvreté, parce que ça a été comme ça dans toute l'histoire de l'humanité.
Là, c'est plus le cas.
7% de pauvreté, et tant mieux hein, chez les retraités, dans la population moyenne, c'est 15%. Et une famille monoparentale ou une famille avec 3 enfants, c'est 20-22%. Donc la pauvreté a changé d'âge.
Donc l'effort n'est pas ciblé au bon endroit, si je vous écoute.
Non, parce qu'on a une fausse représentation de la réalité.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Quand les politiques bénéficient aux personnes âgées au détriment des jeunes générations, Zoom cet après-midi sur la gérontocratie avec nous l'essayiste Hakim El-Karoui. Hakim, est-ce qu'on peut favoriser vraiment les plus âgés sans forcément désavantager les jeunes? Est-ce que c'est forcément des vases communicants?
Ben, c'est ça qu'il faut réussir à trouver, sachant qu'on a un système, notamment le système de retraite dont on parle tellement, qui est fondé sur la solidarité entre les générations. Donc c'est ceux qui travaillent qui financent les retraites de ceux qui, avant, quand ils étaient actifs, finançaient les retraites de la génération d'avant, etc. Du coup, tout est question d'équilibre. Et le problème aujourd'hui, c'est que ceux qui sont aujourd'hui à la retraite n'ont pas beaucoup cotisé. Et par contre, ceux qui aujourd'hui travaillent cotisent énormément et beaucoup plus. Et pour une raison très simple, c'est que ceux qui sont aujourd'hui à la retraite ont eu beaucoup moins d'enfants que leurs parents avant. Donc, c'est la répartition, on répartit entre les générations l'effort. Et la question aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas suffisamment de gens actifs pour payer les retraites, ben normalement, ce qui devrait se passer, c'est que les pensions devraient baisser. Et ce qu'on fait, c'est qu'on allonge la durée de cotisation des actifs. Donc, c'est les actifs qui payent deux fois.
Le fait qu'on ait du mal à accoucher d'une réforme des retraites, c'est le symptôme pour vous de cette gérontocratie qu'on vit ?
Exactement. En fait, quand vous parlez des responsables politiques, j'en ai vu beaucoup et j'ai été avant conseiller à Matignon, ils vous disent, oui, tu as raison, mais qui c'est qui vote ? Qui c'est qui était au grand débat ? Vous vous souvenez le grand débat du président de la République ? L'âge moyen, c'est 60 ans. Qui est élu local ? Quels sont les militants politiques ? Pour tout ça, il faut avoir du temps, et c'est très bien d'avoir du temps, et c'est très bien que les retraités s'engagent dans la société. Ils s'engagent en politique, ils s'engagent aussi dans la vie quotidienne, ils s'engagent avec leurs enfants, tout ça, ça a de la valeur. Mais quand on regarde les chiffres, ça ne marche pas du tout, on n'y est pas du tout.
Donc il faudrait une contribution financière des retraités ?
Soit une contribution financière, soit, par exemple, là on parlait de l'indexation des pensions sur l'inflation, ça veut dire quoi ? Il y a de l'inflation, paf, on augmente automatiquement les pensions. On pourrait faire, c'était ça qui était en débat, on pourrait ne pas indexer. On pourrait aussi, vous savez, les retraités ont un abattement de 10% sur leurs frais professionnels. Bon. Quand on est à la retraite, on travaille plus. Hein. Bon, c'est comme, vous savez, les conducteurs de train, ils ont un abattement pour le charbon. Bon, c'est fini. L'abattement professionnel pour les retraités, c'est 10% des revenus. Hein. On pourrait l'enlever. Ils ne payent pas la même CSG que les actifs. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on pense qu'ils sont plus pauvres que la moyenne des Français. C'était vrai il y a 30 ou 40 ans. C'est plus vrai aujourd'hui.
Ça permettrait de sauver le système des retraites sans augmenter l'âge de départ à la retraite, par exemple ?
Alors, en fait, il faut tout faire à la fois, compte tenu de l'évolution de la démographie. Ah oui, j'ai pas de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que les 64 ans, en fait, il faut y aller, et les autres pays, ils sont plutôt à 66 ou 67. Mais ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde participe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté les cotisations sur le travail. Donc ça, c'est les actifs qui payent. On allonge la durée de cotisation, donc la durée de vie au travail. C'est les actifs qui payent. Et on a dit, on touchera jamais aux pensions. Oui, mais pourquoi ? Parce que maintenant, en fait, on n'y arrive plus. Et surtout, c'est un cas spécifique à la France. En France, les retraites, c'est 14% du PIB. En Allemagne, c'est 2 points de moins. Je vous donne un exemple. Ça veut dire que les actifs français payent, toutes choses égales par ailleurs, 100 milliards d'euros de plus par an que les actifs allemands. Donc, ça pèse énormément sur le coût du travail. Ça crée du chômage énormément. Et ça crée un manque de compétitivité.
Les retraites, d'ailleurs, c'est une petite auto-promo, on va en reparler encore demain à 17h dans notre émission. Je tiens à le signaler pour ceux qui veulent en savoir toujours plus. Lui, il a été toujours très proche des personnes âgées, parfois même trop proche quand il s'agissait de ma mère. Oh. Arrête de me présenter comme un gigolo, m'a-t-il souvent dit. Arrête de voir Monique, lui ai-je souvent répondu.
Mais c'est
du
pas une personne âgée.
Quentin, c'est vrai, ça c'est vrai. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants de 7 à 77 ans, avec donc, on l'aura compris, une préférence pour ceux qui en ont 77. Alors, ce mot gérontocratie, ça les a fait réagir.
Je marche non loin du Sénat, dans le 5e arrondissement de Paris. Le Sénat, c'est un peu le temple de la gérontocratie, quelque part. Le plus vieux d'entre eux a 84 ans. 20 ans d'heures sup pour Jean-Marie Van Leurenberg, élu du Pas-de-Calais. C'est en tout cas ici que je croise la route d'Olivier.
Gérontocratie. On parle du fait que ce sont les vieux qui dirigent le monde. vu l'âge des présidents, à part Trudeau qui est sur le départ et Macron dont on ne sait pas ce qu'il va devenir. Oui.
Je lui demande ce que ça dit de nous et de notre époque.
Oh, ça raconte quoi ? Ça raconte probablement que le monde ne va pas très bien quand même. Parce que s'il faut attendre 80 ans pour gouverner, c'est quand même bien dommage. Alors après, les jeunes, ils ne veulent pas non plus toujours s'engager. Hein. Parce que la politique, elle mange la vie.
Donc aujourd'hui, il y a peut-être un changement de mentalité. On ne va peut-être pas donner sa vie pour la politique.
Ouais, c'est ça. On donne moins sa vie pour le boulot, pour... Ouais, tout à fait.
Je longe la rue Soufflot et c'est Aloïs, 19 ans, main dans les poches et casquette de baseball verte sur la tête, qui me demande ce que je fabrique avec ce micro. Je lui explique la situation de la France depuis un an, le plus jeune Premier ministre, puis les deux plus vieux qui se succèdent. Est-ce là...
La gérontocratie. Vous savez, dans Les Heures Sombres, un film sur Churchill, au moment où on appelle Churchill au pouvoir, il y a cette phrase où il dit « Quand la jeunesse a échoué, puisse la sagesse relever le défi ». Donc là, on rejoint un petit peu le concept de gérontocratie et la situation actuelle où la jeunesse, Gabriel Attal a échoué.
D'accord, mais alors où est la jeunesse aujourd'hui ?
Après, on a des montants comme Jordan Bardella. Et lui qui reprend les codes des jeunes, etc. Et qui attire même des plus vieux qui sont favorables à l'extrême droite. Il y a plein de jeunes qui sont fans de lui comme si c'était une rockstar. Donc je pense
que... Vous en connaissez ?
Oui. Oui, j'en connais des personnes qui ont pu le croiser, faire une photo. Et pour eux, c'est incroyable. Et après, on voit aussi à la télé, hein, les filles qui crient « Ah, Jordan, Jordan !» Il y a une fascination, comme si c'était une star. Quoi.
Alors, est-ce qu'en ne laissant pas la jeunesse s'exposer et s'installer dans d'autres partis, on laisse cette primeur à l'extrême droite ? Lisa est encore plus jeune, elle a 15 ans, elle est en seconde.
La gérontocratie, avec Michel Barnier, François Bérou et tout, enfin... Puis ailleurs aussi, c'est des vieux, des hommes, des vieux, des âgés. Bah ouais, pour moi ça dépend du vieux, genre Philippe Poutou, je l'apprécie beaucoup et il est vieux, donc pour moi ça dépend des idées.
Allez hop, un petit coup de pelle pour Poutou qui a 57 ans quand même. Alors on vote, est-ce qu'on vote pour un âge ou pour des idées ? J'approche maintenant de ce monsieur qui est installé sur le mobilier urbain pour accrocher les vélos, je le surprends.
Oh la vache, la gérontocratie, gouvernement domination par des vieillards. Ah oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que des vieillards, disons que c'est des hommes d'expérience. Il est évident que on pourrait avoir plus jeunes, mais on pense que c'est trop tôt.
Ah, voilà. Attendons alors. Comme ça, les jeunes vont devenir vieux et ça changera tout notre problème. Ça le fait rire. Il me confie qu'effectivement, il faudrait peut-être laisser la place.
En conclusion, vive les jeunes, vive les vieux, mais pour le gouvernement, je prends le cas par exemple des Jeux Olympiques. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que normalement, on devrait limiter les Jeux Olympiques à 35 ans. Pourquoi que Victor s'est fait battre sur le basket sur des gars de 40 ans alors que lui avait 20 ans ? C'est complètement un scandale. C'est un scandale.
En général, les vieux veulent pas lâcher.
Non, mais je veux dire, pourquoi, 40, pourquoi deux joueurs 40 ans ?
Je sais pas, parce qu'ils y arrivent encore. Le parallèle avec le sport n'est pas inintéressant. LeBron James qui joue avec son fils, Nadal qui vient tout juste de prendre sa retraite, Alonso qui pilote encore une F1 à 43 ans, ou Drucker qui a signé un nouveau contrat en 2025. Dans tous les domaines, les vieux ne veulent plus partir. Elle, je la croise, le visage enfoui dans son écharpe de toutes les couleurs, elle porte un objet en bois sur son épaule. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Juliette.
Juliette, vous trimballez un meuble dans la rue ?
Tout à fait, je viens d'acheter un valet de chambre.
Sur le bon coin ?
Ouais, exactement.
Dernière réaction sur la gérontocratie.
Ouais, complètement. Je pense que politiquement, si on se retrouve un peu dans cette situation, c'est en partie à cause d'eux. C'est eux, écologiquement, qui ont aussi épuisé les ressources de la planète, donc c'est pas faux. J'ai demandé à ma grand-mère pour les dernières élections si elle voulait bien me donner son vote. Bon, elle n'a pas voulu. J'ai tenté.
C'est ça, la lutte, c'est on vole le vote des vieux maintenant.
Ouais, c'est ça, exactement. Bon, c'est comme un cadeau de Noël, quoi. On avance.
Et on retire une voix.
Non, on la place différemment.
Vous la repérez, cette gérontocratie des hommes blancs de plus de 70 ans qui parlent à un électorat vieillissant, et c'est loin d'être fini. Alors, devrons-nous soudoyer la carte électorale de mamie pour éviter la gérontocratie ?
J'espère que ma maman ne, donnera jamais sa carte ne vous donnera jamais sa carte électorale, Quentin.
N'est pas une amie.
Ne le tentez pas. Hakim El-Khaoui, je rebondis sur cette dernière réaction qu'on vient d'entendre. Juliette qui veut prendre la voix de sa grand-mère. Qu'est-ce que ça dit? Qu'à un moment, il va peut-être falloir en passer par une pondération des voix. Chaque citoyen, ça ne sera pas une voix, un citoyen.
Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais par exemple, au Japon, qui est le pays le plus vieux du monde, hein, qui va perdre un quart de sa population en 20 ans, il y a eu des réflexions vraiment très sérieuses portées par le parti au pouvoir pour donner un droit de vote double aux parents d'enfants, de jeunes enfants. Évidemment, d'un point de vue démocratique, ce n'est pas très satisfaisant, mais le sujet, quand on rentre dans un système gérontocratique, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens âgés qui votent et qui votent majoritairement, ben, en fait, ils votent en fonction de leurs intérêts. On ne peut pas vraiment leur en vouloir. Le problème, c'est que leurs intérêts ne sont pas forcément les intérêts du pays. Parce qu'ils ne vont pas investir dans l'éducation, ils ne vont pas investir dans l'écologie, ils ne vont pas investir peut-être même dans la défense, parce que tout ça est trop loin. Du coup, on investit dans les transferts sociaux, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. 31% du PIB, les transferts sociaux s'emballent, alors que, par exemple, les questions de financement, tout le financement du régalien, lui, devient très limité. Et puis, on vit aussi avec des fausses représentations. Par exemple, on pense que c'est les immigrés qui viennent bouffer l'argent des Français, et notamment les allocs. Bon. Moi, j'ai fait un petit travail, je me suis rendu compte que la Seine-Saint-Denis, donc c'est le département le plus jeune de France, là où il y a le plus d'immigrés, et c'est aussi le plus pauvre. Donc on pourrait dire que c'est celui qui vit le plus des allocations. En fait, c'est le 8e département contributeur au financement de la protection sociale. Et tenez-vous bien, c'est le dernier receveur.
Et comment ça s'explique ?
Et pourquoi c'est le dernier receveur ? Pour une raison très simple, c'est le plus jeune de France. Et c'est aussi là où il y a le moins de retraités. Et le département qui vit le plus des allocs, c'est le Var. C'est-à-dire là où Éric Zemmour a eu son plus grand succès, le Var et la Nièvre. Donc c'est Brigitte qui vote Zemmour dans le Var, qui se plaint de Mamadou qui bosse en Seine-Saint-Denis, mais c'est Mamadou qui finance les retraites de Brigitte.
Vous parlez de Brigitte Bardot, je ne comprends pas.
Moi, je vous laisse interpréter. Et donc en fait c'est ça le système, et donc pourquoi ça continue? Parce que la première chose c'est qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On vit avec des idées qui sont complètement fausses, et qui sont d'ailleurs souvent entretenues par les hommes politiques.
Aloïs, 19 ans, vous avez entendu cette jeunesse s'exprimer, qui cite la citation du film sur Churchill, quand la jeunesse a échoué, puisse la sagesse relever le défi. C'est comparable avec ce qui s'est passé l'été dernier, après la dissolution?
Oui, mais regardez, c'est intéressant, celui qui a fait la politique la plus ouvertement pro-retraité de tout le gouvernement, c'est le plus jeune Premier ministre qu'on ait jamais eu, c'est-à-dire Gabriel Attal. Donc c'est pas une question d'âge. Peut-être que François Bayrou va renverser la table et il va dire maintenant, il faut que le travail paye. Parce que derrière, c'est ça le sujet. Vous savez, les gens disent le travail ne paye plus. Pourquoi le travail ne paye plus? Parce que les charges sont trop élevées. Pourquoi les charges sont trop élevées? Les deux tiers des charges, c'est un transfert des actifs vers les retraités, via les pensions et via la santé. Donc, tant qu'on ne dira pas, sachant que le revenu des retraités, il est égal à celui des actifs, et que le patrimoine des retraités, il s'est envolé, notamment celui des baby boomers. Donc, il faut qu'on ait ce débat. Une fois qu'on aura eu ce débat, que les gens auront bien en tête comment marche le système. C'est pas « j'ai cotisé toute ma vie, donc j'ai droit ». Non, c'est y a une assurance qui a été donnée. Personne ne vous a dit que vous gagneriez autant, voire plus, quand vous ne travaillez pas que quand vous travaillez. C'est pas « travailler moins pour gagner plus ». Sauf qu'aujourd'hui, le système, enfin ça, c'était pas la promesse. Sauf qu'aujourd'hui, le système dit ça. Et ça, c'est devenu ingérable.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Le péril vieux, c'est comme ça qu'on aurait pu appeler cette émission, puisqu'on zoome aujourd'hui sur la gérontocratie, le gouvernement des vieux part, en tout cas pour les vieux. C'est bien à ça que ressemble la France pour notre invité, l'essayiste Hakim El-Khaoui. Alors, l'espace d'un instant, oublions qu'on va dans le mur et jouons au Zoom Zoom Test. Et pour décompresser, je vous propose votre format de quiz préféré aujourd'hui, le fameux « Devine qui je suis » en lisant ma bio Tinder. Même si aujourd'hui, gérontocratie oblige, c'est plutôt des bios disons demain, la prise en compte des plus de 50 ans que je vais vous proposer. À la découverte donc de ces seniors, vivant ou mort, Alain Souchon ou Tonton David, qui ont connu les cimes du pouvoir. Et on démarre tranquillement avec une des idoles de notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière.
Bono.
Non, mais non. Bah non, attention à ne pas confondre le Cyril fictionnel que je dépeins parfois, celui dont l'oncle était effectivement dans la Luftwaffe, et le vrai Cyril, qui lui est un progressiste. D'ailleurs, son idole.
Eric Ciotti ?
Non, ça marche pas. D'ailleurs, son idole a eu cette phrase magnifique. Il y a déjà tellement de jeunes qui sont vieux que ce n'est pas la peine de rajouter des vieux qui veulent jouer les jeunes. Pour vous aider à deviner qui est à l'origine de cette magnifique saillie, Manon Quentin, je vais vous lire la bio, disons demain, de cet homme politique français qui nous a quittés il y a 5 ans.
Ah.
Pas de blabla avec moi, je suis un sniper de l'amour. Si tu souffres de la fracture sociale et que tu cherches des sensations fortes, je t'attends dans les toilettes du salon de l'agriculture pour croquer la pomme.
Ouais, Jacques Chirac.
Oh oui, Quentin, quelle culture politique. Jacques Chirac, effectivement, mon surnom, 5 minutes douche comprise.
Oui, c'est vrai.
Effectivement, président Chirac, comme se réfère toujours à lui Cyril, avec un tremblement d'émotion dans la voix. Sériel séducteur partisan en amour d'une forme d'efficacité. Maintenant que vous avez compris le principe, poursuivons ce voyage au pays de l'amour des gérontocrates du monde entier avec la prochaine bio Tinder.
Disons demain, vous avez dit.
J'espère que tu n'as rien contre les hommes qui mettent de l'autobronzante et qui ont passé leur vie à raconter n'importe quoi pour gagner de l'argent.
Vous imitez Dalida ?
De l'argent, il y en a gagné molto. Mais, comme tous les devines à mon accent italien pourri,
Berlusconi ?
Je ne suis pas ce gars-là, je suis ami. Je t'invite en soirée bunga bunga. Silvio Berlusconi, qui n'est certainement pas étranger à l'éclosion des deux grandes passions de Quentin, les ragazze et la création de sociétés offshore.
Mais... je ne sais pas s'il faudra poursuivre avec l'accent en vente.
Ouais, non,
je
ne poursuis pas avec l'accent. C'était mi-italien, mi-espagnol. Hein.
Oui, c'était oui, c'est effectivement entre les deux, effectivement. Ouais. Autre gérontocrate qui veut pécho sur Tinder. Je ne suis pas épicurien, je suis épicutou, le boss de faim des bons vivants. J'aime la bonne chair, dégivrer le gigot, tremper le biscuit et mettre la tarte au four. Je suis Gérard Larcher, mais vous êtes trop fort. Je suis un pro du tir à l'arc, effectivement. J'ai dû changer mon fauteuil parce qu'il était trop usé à force de... Et oui, effectivement.
34 000 euros le fauteuil.
34 000 euros le fauteuil, mais... Au Sénat, c'est des meubles historiques. On ne peut pas mettre n'importe quoi, si vous voulez. Effectivement, Gérard Larcher, le président du Sénat, l'homme le mieux assis de France. Mais attention, pour la prochaine bio, comme ça ressemble à une énigme du Père Fouras, elle est plus dure celle-ci, on va se mettre une ambiance fort boyard. Vous voyez le Père Fouras, un type qui me ressemble un peu en plus jeune. Écoutez. Écoutez.
Il a anticipé la vanne.
C'est pas parce qu'on tape dans les boîtes qu'on ne peut pas taper au fond. Mes batteries sont à plat. J'ai la démarche d'un robot Tesla. Alors, ce que ma vice préfère... c'est quand je me retire.
Jacqueline ?
Il y a un fou de Jacqueline dans cette histoire.
Laurent Fabius ?
Il est français ?
Il est américain.
Ah, Joe Biden ? Joe Biden ?
Hey, Joe Biden, ah, oui. Donald Trump est insolent de jeunesse, maintenant. En fait,
il a 78 ans.
Il est insolent de jeunesse par rapport à Biden. On ne pouvait pas ne pas avoir une pensée pour Biden en ce jour d'investiture de Donald. Mais attention, top ! Autre homme de pouvoir, autre bio Tinder. François Hollande a dit que j'étais pas mou, je confirme. Alors si tu aimes le frisson du centrisme, fais comme moi, swipe droit.
Bayrou.
Je suis à la recherche de celle qui regardera pousser le poireau avec moi. PS, si tu es Pierre Courade, swipe vite à gauche. Bah même ici, je ne veux pas te croiser. François Bayrou, effectivement, vous êtes d'une vivacité intellectuelle et d'une culture politique sidérante aujourd'hui, Quentin.
Effectivement.
Effectivement. Monsieur Bayrou, comme l'appelle Cyril, qui bouffe décidément à tous les râteliers. De là à interpréter la Marseillaise à la flûte à bec à chaque fois qu'on cite son nom, franchement, Cyril, respectez-vous un peu. Enfin, attention, dernière devinette du jour. Fille de l'Est, mais pas bimbo, cherche currywurst pour piquer mon quotidien.
Angela Merkel.
Une meuf qui pèse dans le game. J'ai été élue 14 fois femme la plus puissante du monde. Repsa Asayan Supakru. Oui, t'assistes correct. Angela Merkel, Angela. Effectivement. Mais Quentin, mais vous avez bossé pendant tout le week-end?
Ou alors, mais pour une fois que je gagne, ça va.
C'est vrai.
Ou alors on vous a soufflé les réponses en régie.
Ah non.
Ce qui serait vraiment décevant.
Non.
Vous savez qui est en régie? Tout le monde me déteste.
C'est vrai que c'est vrai, vous n'avez pas beaucoup d'amis de l'autre côté de la vitre.
Mais non, mais il a une bonne culture politique.
Une victoire de Quentin. Et
merci à tous pour nous faire plaisir. Voilà.
Quand la démocratie se mue peu à peu en gérontocratie, zoom cet après-midi sur ce pouvoir des vieux avec l'essayiste Hakim Elkaoui, auteur de La lutte des âges, comment les retraités ont pris le pouvoir aux éditions Flammarion. Hakim, est-ce que les personnes âgées, elles se rendent compte des efforts demandés aux plus jeunes? Dit autrement, est-ce qu'il y a des gens qui ont lu votre livre, qui sont eux-mêmes retraités ou qui sont des personnes âgées, qui vous disent « vous avez raison ».
Alors franchement, pas beaucoup.
Ah voilà.
Par contre, il y en a beaucoup qui considèrent qu'eux, ils ont travaillé très longtemps, qu'ils n'avaient pas les 35 heures à leur époque, etc. Et qu'aujourd'hui, les jeunes se la coulent douce et donc ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient toucher moins de pension. Donc ça, c'est le problème initial, en fait, le plus important. En fait, chacun croit que c'est un système individuel. Vous savez, la capitalisation versus la répartition. La France est pour la répartition. Mais les Français pensent qu'ils ont capitalisé, c'est-à-dire qu'ils ont épargné individuellement et que donc ils y ont droit. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Et donc, il faut expliquer d'abord comment marche le système, ensuite la répartition démographique, et puis la réalité entre les générations, et puis entre les retraités français, par exemple les retraités allemands ou britanniques. Les Français sont incroyablement privilégiés. Et tout ça, ça pèse sur le travail des jeunes, des actifs.
Est-ce que pour vous, on est proche d'une guerre de générations ?
Pour qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et le truc
qui est... C'est ce que vous dites. Alors,
Oui, mais non, moi je vous dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais je vous dis aussi qu'il n'y a pas le sentiment. Il y a un débat dans les familles le dimanche. Les grands-parents demandent aux enfants, notamment à ceux qui rentrent sur le marché du travail, ils voient bien que c'est difficile, ça prend de plus en plus de temps d'avoir un CDI. Acheter un logement ou même avoir une location, c'est de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce que les prix ont augmenté et puis parce que le travail est très cher. Pourquoi le travail est très cher ? Parce qu'il y a énormément de charges qui pèsent sur le travail. Et pourquoi le prix des logements a augmenté ? Parce qu'il y a une génération qui s'est enrichie, qui a investi dans la pierre. Et aujourd'hui, il y a un coût d'entrée qui est extraordinairement élevé. Donc en fait, tout ça est caché.
Par quoi on peut corriger ça ? Le déséquilibre, on l'analyse mais...
Ah, c'est très simple. En fait, moi je suis un homme politique, je suis en campagne. Je vais vous dire, je vais vous faire une promesse. Demain, j'augmente les salaires de 10%. Ah bon, formidable, comment vous faites ? C'est très simple, je baisse les charges sociales de 25%. Comment je baisse les charges sociales de 25% ? Je vais vous dire la vérité, je vais baisser les pensions, et je vais baisser les pensions aujourd'hui, parce qu'en plus, demain, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, je sais qu'elles vont baisser à peu près dans cette proportion. Pour une raison très simple, c'est que les baby-boomers vont être beaucoup, beaucoup plus nombreux à la retraite. Et donc, on ne pourra plus payer. Donc, les pensions vont baisser. La question, c'est quand ?
On met aussi des dettes, les deux grandes dettes, la dette financière, la dette climatique aussi. Ça, c'est quelque chose qui crée du ressentiment entre les générations ?
Un petit peu, plus la dette climatique que la dette financière, parce que la dette climatique, elle est plus perçue, elle est plus présente dans la vie quotidienne. Et puis, évidemment, dans la jeune génération, il y a une vraie angoisse climatique. Mais il n'y a pas le sentiment d'une responsabilité de la génération d'avant. Ils disent, oui, très bien, il y a une dette climatique, mais regardez tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait pour vous. On a construit des routes, on a construit des écoles, on a construit des hôpitaux, etc. Donc, tout n'est pas faux. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut trouver un équilibre. Et aujourd'hui, on n'a pas le bon équilibre.
Je lisais une interview de vous parue au moment de la crise du Covid sur le site du Figaro. On s'arrêtait sur les commentaires sous l'entretien. Les retraités vous insultaient parce que vous émettiez l'idée qu'ils étaient préservés par la crise. Est-ce qu'il y a une crainte de la part des plus âgés de perdre certains privilèges ?
Alors, je ne disais pas exactement ça. Ce que je disais, c'est qu'il y avait eu un élan de solidarité des actifs pour les retraités, notamment les plus âgés des retraités, puisque ceux qui étaient menacés par le Covid, c'était vraiment les plus de 75 ans. Et que cet élan de solidarité, il avait coûté énormément d'argent, 100, 120 milliards d'euros. Et que peut-être, ce n'était pas absurde de considérer, puisque quand la crise était finie, qu'il allait falloir que les retraités... rendent un petit peu cet argent, puisqu'en fait, ils sont proportionnellement plus riches que les actifs. Donc, c'était l'objet... Et effectivement, je me suis pris une flopée d'insultes. Mais c'est cette idée, en fait, on est tout seul, on n'est pas dans un système collectif. Le système collectif, il doit payer pour vous. Par contre, vous ne devez jamais rendre.
Certains jeunes se sont aussi demandé pendant le Covid si les périodes de confinement ne servaient pas avant tout à sauver les plus âgés. Est-ce que là aussi, on peut parler d'une décision dictée par cette gérontocratie ?
Alors non, moi je ne dirais pas les choses comme ça. Oui, les périodes de confinement ont servi à sauver les plus âgés, et tant mieux. Ça, c'est la beauté de nos sociétés, c'est qu'on est solidaires. Mais il ne faut pas que cette solidarité soit à sens unique. Ça a coûté très cher en fait aux jeunes et aux actifs. Okay. Ce serait bien de renvoyer un peu la balle.
Un petit retour d'ascenseur. Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Wow. Manon, il va falloir tourner votre langue cette fois dans votre bouche pour réussir à prononcer le mot que vous allez tenter de prononcer. Vous nous indiquez le nom, la personne à suivre.
Oui, je vais un peu galérer, je le cache pas. Je vous présente Paetong Tarn Shinawatra. Elle a 38 ans, elle est thaïlandaise et elle est, depuis l'été dernier, la plus jeune première ministre du monde. Et si pour nous, elle est largement méconnue, en Thaïlande, son nom de famille est très connu. Elle est la troisième personne de sa famille à y être première ministre. Il y a eu son père Thaksin de 2001 à 2006 et sa tante Yingluck de 2011 à 2014. Les deux ont été renversés par des coups d'État militaires. Car la famille Shinawatra est au cœur des affrontements idéologiques dans le pays. Avec son parti Futai, elle appelle à des réformes démocratiques, une réduction du rôle de l'armée dans la politique et une redistribution plus équitable des richesses. Sauf que face à elle, il y a la vieille garde monarchiste thaïlandaise protégée par l'armée. Ce qui est intéressant avec Paetong Tarn Shinawatra, c'est son approche des réseaux. Sur Instagram, Instagram, par exemple, elle affiche ouvertement son train de vie très luxueux, telle une influenceuse. Elle a plus de 700 000 abonnés. Et en même temps, fidèle à la tradition de sa famille, elle soutient les agriculteurs et les populations rurales de son pays. Paetong Tarn Shinawatra incarne une nouvelle génération politique en Thaïlande. Elle a aidé à moderniser l'image du parti Pheu Thai, dont elle est aussi la chef, avec des campagnes numériques. Son style est décrit comme direct, inclusif, et elle est perçue comme une leader assez charismatique, capable de s'adresser aussi bien aux classes populaires qu'à l'élite économique. Pardon. Sauf que les élections législatives de 2023 ne se sont pas passées comme prévu. Tous les feux étaient au vert pour elle. Elle a mené une campagne axée sur la justice sociale, la démocratie et la réconciliation nationale, en capitalisant sur le mécontentement des électeurs envers le gouvernement sortant, autoritaire et militaire. Sauf que le parti de Shinawatra n'a finalement pas remporté suffisamment de sièges. Résultat, elle a dû s'allier avec des partis pro-armés, ses anciens rivaux, au risque de se faire accuser de trahir ses idées. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France que les coalitions font débat.
Merci Manon. Hakim El-Khaoui, pour vous, il y a une déconnexion totale entre l'âge, entre la jeunesse d'un dirigeant et la gérontocratie. Il peut très bien avoir, on l'a vu avec Gabriel Attal, effectivement, des politiques plutôt en faveur des personnes âgées. Ça n'a rien à voir avec son âge.
Ouais, je crois vraiment que ce qui compte, c'est pas l'âge du dirigeant, c'est ce qu'il fait. Et donc en fait, ce qu'il fait, c'est lié à l'âge de ses électeurs. Donc c'est plutôt l'âge des électeurs qui compte que l'âge du dirigeant.
Mais alors Jordan Bardella, il va devoir un petit peu changer son fusil d'épaule, puisqu'il a des électeurs assez un peu plus jeunes. Il rajeunit son électeur en tout cas.
Oui, ça c'est sa force, parce qu'en fait c'est un influenceur YouTube. Il a tous les codes de l'influenceur YouTube. Donc ça, il fait venir des nouveaux électeurs. Et en même temps, vous voyez que Marine Le Pen maintenant s'adresse aux retraités. Jusqu'à présent, elle faisait peur aux retraités quand elle voulait sortir de l'euro, etc. Ils avaient peur pour leur épargne. Et puis maintenant, depuis 4-5 ans, et là, très récemment, elle est devenue la plus farouche défenseur des retraités. Donc, ils élargissent le spectre des âges.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Pour nous résumer le problème de la gérontocratie, qui de mieux que celui qui connaît à la fois la crassie, puisqu'il est rédacteur en chef, adjoint certes, mais en chef quand même, ouais. Et surtout géronto, puisque quiconque verrait l'état de sa trompe de stache. Qualifié récemment de chandruine par un ORL qui lui a même demandé comment il pouvait entendre quoi que ce soit sans appareillage, comprendrait que l'âge qu'il donne quand on lui demande, 37 ans, est totalement fictif. Bonjour Pierre Courade, est-ce que vous m'entendez bien?
5 sur 5, Mathieu.
5 sur 5, vous êtes sûr? Très bien. Rien qu'en répondant 5 sur 5, vous donnez une autre indication sur votre âge. Alors Pierre, allons-y. Racontez-nous tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
On a parlé donc de gérontocratie cet après-midi. À l'origine, c'est un terme qui critique le système politique trusté par les personnes les plus âgées de la population. Et comme ce sont des seniors qui dirigent, eh bien, rien n'est très moderne, pas très progressiste non plus. Aujourd'hui, on reprend surtout la deuxième partie de la définition, indifféremment de l'âge des dirigeants. Pour preuve, notre invité qui a étudié la question, l'essayiste Hakim El-Khaoui, estime que malgré le fait d'avoir le président et même brièvement le premier ministre les plus jeunes de la 5ème République, nous sommes dans une gérontocratie. L'exemple le plus flagrant, ce sont les retraites. Les retraités sont aujourd'hui en moyenne à un niveau de vie équivalent, si ce n'est plus élevé que les actifs. Et lorsqu'il s'agit de rééquilibrer le système, on ne leur demande pas d'y contribuer afin de préserver leur pouvoir d'achat. Tout est parti des élections européennes de 2019 où les retraités ont massivement voté pour le parti d'Emmanuel Macron, trésor de guerre à préserver à tout prix par le président de la République. Dès lors, les retraités sont au cœur du système politique. Hors de question de désindexer les retraites, quitte à voir un gouvernement chuter et quitte à rogner sur d'autres lignes budgétaires plus favorables aux jeunes et aux actifs. La gérontocratie n'obéit pas à une logique économique mais purement politique. Ici, à Zoom Zoom Zen, on est loin de la gérontocratie, c'est même l'inverse, puisque contrairement à ce que vous disiez de manière perfide, Cyril, qui va prochainement fêter ses 50 printemps, vient de découvrir l'existence de la chanteuse Santa, qu'on recevra prochainement. Du coup, il vient de fermer son adresse Minitel Rose 3615, code, d'où ça sort, ça peut rentrer aussi.
On a une minute 35,
et compte ouvrir prochainement son Skyblog, comme quoi la gérontocratie, ce n'est pas une question d'âge, mais d'état d'esprit.
Je me disais, ça manque Cyril de pique cette chronique, mais finalement, c'était toute concentré à la fin et sur vous, mon pauvre Cyril. Ben oui, bien sûr. Vous regardez Mélania Trump, je crois. Elle a une très belle robe,
oui. C'est ça. Tenue sublime.
Oh, mais ça va.
On me fait signe, malheureusement, qu'il est temps d'enchaîner. Marine Leonardi, vous adorez les vieux.
Ah oui, ben moi, il ne faut pas me lancer sur le sujet des vieux. C'est une passion pour moi. Les Brigitte, les Fabrice, non mais quel régal, cette génération. Non, mais on n'est pas vieux, on a 65 ans. Mais arrête de te raccrocher à la vie, Brigitte. Tu sais ce que veut dire quoi, Koubé? Tu connais la chanceuse Stila? Tu prends des photos avec ton iPad, puis il y a une protection à clapet. Et ben, t'es vieille, brébrie, voilà. Et c'est ok, c'est ok. Mais moi aussi, je vieillis. Hein. J'ai arrêté de m'épiler la chatte parce que les poils tombent tout seuls. Je suis vieille, voilà. Et je suis pas là, c'est pas de la vieillesse, c'est de la sagesse. Non, non, voilà. Quand le seul conseil avisé que tu as à donner aux jeunes, c'est fais attention aux graphistes, hein, c'est des gros queutards, c'est que ta contribution sur la planète est très limitée. Non, en réalité, j'ai une peur bleue de vieillir. Après, je vous promets, je traite vraiment le sujet qui est plus politique que ça, mais, ah oui. Mais parce que honnêtement, les exemples de vieux autour de moi, ce sont que des gens qui sont là. Ah non, mais moi, on me changera pas. Hein. Faut m'accepter comme je suis. Hein. Mais purée, Fabrice, tu as rejeté ton fils quand il a fait son coming out, et tu trouves que Trump, il dit pas que des conneries. C'est pas qu'on veut te changer, c'est qu'on veut te remplacer par un ficus ou une bougie diptyque, je sais pas. Non mais Trump, il a 78 ans. Hein. Quand il dit qu'il veut récupérer le Groenland, il y a une chance sur deux qu'il pense que ce soit une marque de glace. Je tiens quand même à le dire. Hein. Non mais c'est quoi ces gens qui veulent bosser jusqu'à la fin de leur vie? Moi, je vous explique. Hein. Je vais pas faire des chroniques jusqu'à 80 ans. Hein. Mathieu, s'il est encore là, ça le regarde, vraiment. Hein. Bon. Non mais je suis pas, attendez, je suis pas plus intelligente qu'une autre. Hein. Allez, j'enchaîne. Non, mais c'est sûr que moi aussi, dans 20 ans, je fous la honte. Hein. Je serai là. Et dire que les nouvelles générations n'auront pas connu le poke sur Facebook. Non, mais piquez-moi. Enfin, je dis ça à Cyril Lacarrière comme s'il allait encore être en vie. Non, mais je serai invitée dans des mariages en 2060 et on passera du Rihanna en début de soirée pour faire plaisir à la vieille Leonardi. Je ferai deux pas de danse en me disant « Hey, je suis encore bonne, moi !» Alors qu'à chaque déhanché, je lâcherai une flatulence. Pas mal, la machine à fumer. Non mais je vous jure, je ne supporte plus le c'était mieux avant. Ça, je supporte plus. C'est tous ces discours là. On jouait avec des bouts de ficelle et les gens se parlaient. Dixit, ton vieux tonton qui passe des heures à mater de la K-pop sur TikTok. Mais surtout, qu'est-ce qui était mieux avant? Avant, tu te faisais agresser sexuellement, on te disait de la boucler. Il n'y avait pas internet, donc tout le monde était soit pistonné, soit pauvre. Et les gens fumaient des gauloises dans les trains. Le seul truc mieux avant, c'était l'immobilier. Mais alors, ça t'inquiète que les boomers te le rappellent en permanence. Oh là là, 12 000 euros du mètre carré à Paris. Oh, et dire que moi, j'ai acheté cet appartement contre un paquet d'oranges. Bah oui, je me rends compte, mamie. Pourquoi tu penses que je me fais chier à te rendre visite tous les mercredis? Je m'en fous, hein, des 12 coups de midi. Mon mari m'en met déjà pas un le soir. C'est dur en ce moment. C'est un peu dur. Oui. Non mais les vieux c'est infatigable, les vieux ça vote, c'est évidemment que ça, bah évidemment, ils sont même devant le bureau de vote à 7h50, hein, parce qu'après il faut qu'ils aillent chez Leclerc à 8h30, un samedi matin, hein, pour bien faire chier toutes les jeunes mères de famille, et commenter, bah alors ce petit bonhomme, il doit avoir froid sans écharpe aux rayons surgelés, bah non madame, parce qu'il a pas 103 ans, donc il peut survivre à 18 degrés pendant 5 minutes, mais tu réponds pas ça, parce qu'il faut respecter le troisième âge, hein, c'est ce qu'on t'apprend, hein. Respect aux vieux, respect à Jean-Marie Le Pen qui a vécu 96 ans, mais vous prenez pour qui, jeune fille? Vous croyez que c'est facile de détester les juifs et les arabes avec autant de cohérence pendant 9 décennies? A commenté Ben du 93 ans sous une de mes vidéos. Allez, je vous laisse. J'ai une soirée à thème, MC Solar et Ophélie Winter. Oh. Ça, wow. C'était de la vraie musique.
Ah, là je suis d'accord avec vous Marie, là on se retrouve, là on parle le même langage. Merci Marie Leonardi, on vous retrouve lundi prochain dans Zoom Zoom et en tournée dans toute la France avec votre spectacle Mauvaise Graine. Et merci beaucoup à Kim El-Khaoui, je rappelle votre livre La Lutte des Âges, mais aussi je tenais à le signaler, Marine Le Pen présidente, dystopie politique 2026-2029, mais qu'est-ce qui se passe?
Bah elle prend le pouvoir, on imagine ce qui se passe et comme elle l'a pas imaginé, on le fait pour elle.
Eh ben oui bien sûr, merci encore. Zoom Zoom Zen.